Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h. Christelle Yesso.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce journal. Élection locale partielle du 2 décembre, tous les résultats sont maintenant connus. Relevant la bonne performance des indépendants, le politologue Geoffroy-Julien Kouaou estime qu'il faut en tirer les leçons pour les prochains scrutins. Des précisions dans ce journal. Dans le cadre de la COP28 à Dubaï, la Côte d'Ivoire présente le projet Abidjan Legacy Programme, un projet qui vise à renforcer la productivité des agriculteurs les plus vulnérables face aux effets dévastateurs de l'environnement. Hors de nos frontières, Londres et Kigali ont signé ce mardi 5 novembre au Rwanda un nouveau traité visant à ressusciter un accord controversé pour expulser dans ce pays des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Élection locale partielle du 2 décembre, tous les résultats sont maintenant connus. Relevant la bonne performance des indépendants, le politologue Geoffroy-Julien Kouaou estime qu'il faut en tirer les leçons pour les prochains scrutins. Il est joint par Junior Cardin.
Les résultats des élections du 2 décembre 2023 confirment ceux proclamés le 2 septembre dernier. À l'exception de la circonscription de Koumbala, ça veut dire que les populations sont restées dans la même dynamique électorale. Et ça veut aussi dire qu'il faudrait désormais regarder du côté de la CEI, parce que les raisons qui ont justifié la plupart des rejets des résultats par le Conseil d'État procèdent du dysfonctionnement de l'administration électorale et non du scrutin lui-même. Autre remarque, c'est toujours la dynamique victorieuse du RHDP qui vient de remporter deux communes importantes et une région. On a vu le PDCI avec une commune, le PPACI totalement absent et on a vu la bonne performance aussi des indépendants. Dernière remarque, ce sont les incidents malheureux à Ferkesé-Dougou. Il faut donc prendre en compte cet incident pour anticiper sur les scrutins futurs.
Effectivement, on a senti quand même dans certaines localités comme Tiassalé et Ferke, la tension montée. Vous allez dire que c'est normal pour toute élection?
Oui, évidemment. Une élection avant tout une compétition concurrentielle. Et donc, c'est normal qu'il y ait la montée des tensions. Mais il faut contenir tout cela dans le cadre démocratique.
C'était Geoffroy-Julien Kouaou, juriste et politologue, joint par Junior Cardin. Nous ouvrons à présent dans ce journal une page consacrée aux droits de l'homme. La présidence du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a présenté au sénateur ivoirien, ce lundi 4 décembre à Yamoussoukro, le rapport annuel 2022 de son institution sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce rapport, comprenant trois grandes lignes, porte sur l'état du droit, les activités réalisées par le CNDH et les difficultés, perspectives et recommandations en lien avec la situation des droits de l'homme dans le pays. On en sait plus avec Émile Yao.
Le CNDH a réalisé une étude sur l'impact de la corruption dans le système de santé à Abidjan, Bouaké et Korogo. Cette étude a révélé que la forme de corruption la plus fréquente est le trafic d'influence, ensuite le détournement et la soustraction des deniers publics, et enfin l'abus de fonction. Le rapport analyse que l'impact de la corruption dans le système de santé compromet l'exercice du droit à la santé, notamment l'acceptabilité et la qualité des soins. Le CNDH a initié une enquête en vue de porter un regard critique sur l'environnement global des structures privées de santé et établir leur cartographie. Les résultats de cette enquête indiquent que les cliniques privées n'ont toutes pas les autorisations nécessaires. Sur un total de 1460 structures sanitaires privées à l'intérieur du pays, seules 343 ont une existence légale, 99 exercent avec un agrément provisoire et 1022 ne disposent d'aucun document administratif et exercent dans l'illégalité. L'enquête a relevé des cas d'atteinte aux droits de l'homme, notamment des atteintes à la vie, le refus d'admission des soins en cas de non-paiement de frais, le non-respect de la législation en vigueur relative à la création et au fonctionnement des établissements sanitaires privés.
Vous venez d'écouter Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et toujours en ce qui concerne les droits de l'homme, le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, le RAID, en partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung, a procédé à un renforcement des capacités des populations et élus locaux de Danané. Objectif, renforcer les capacités des parties prenantes sur le fonctionnement des institutions et sur les valeurs citoyennes de la République. Le compte-rendu avec Stéphane Adams.
Le représentant du préfet de Danané, Béné Jean-Louis, à l'ouverture des travaux.
Ici à Danané, nous avons des députés, des sénateurs, le président du conseil régional, nous avons le maire de la commune. Qui fait quoi exactement? Qu'est-ce que la population doit attendre de chacune d'elle?
Dans son exposé aux participants, le représentant de la directrice de Konrad Adenauer, Stiftung, Goli Théodore, précise.
L'objectif de cette activité, c'est de permettre aux élus, dans un langage simple et clair, d'expliquer eux-mêmes aux populations le contenu de leur mandat. En d'autres termes, je vote le maire, je vote le député, c'est pourquoi. Quel pouvoir je lui donne pour agir à mon nom? Il doit me représenter en faisant quoi? Comment est-ce qu'on peut leur demander des comptes? Comment on peut juger de leur efficacité et contrôler les actions? C'est tout le sens de cette activité.
Le vice-coordonnateur du RAIDH, Bakayoko Falikou, en fin de rencontre.
Les populations de Danané sont informées désormais du rôle et attribution du député et du maire. Au regard de ces résultats obtenus, nous souhaitons que les participants pérennisent les acquis de cette action civique à travers des rencontres et des forums de discussion.
Sentiment d'une participante.
Je suis très contente parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, que je viens de découvrir aujourd'hui. Le député, par exemple, ne reçoit pas de fonds de roulement pour pouvoir soutenir la population et que c'est la mairie qui reçoit les fonds pour améliorer les conditions de vie des populations pour pouvoir avancer le développement.
Le RAIDH entend faire bénéficier d'autres localités de cette activité à travers le pays. Stéphane Adam, Danané, Radio de la Paix.
Tout à fait autre chose dans ce journal, parlons formation. Le Centre international Kofi Annan, en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, a initié une formation à la gestion des armes légères et des munitions pour lutter efficacement contre la prolifération des armes à petit calibre au Sahel et dans les pays côtiers. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de renforcer la capacité des formateurs à planifier, organiser et superviser les activités de gestion des stocks d'armes en Côte d'Ivoire. Sur ce sujet, écoutons Jokwei Dibré-Léon, premier responsable de la commission.
C'est un atelier qui va nous amener à former des formateurs. Lesquels formateurs vont former d'autres gestionnaires de stocks. Et on espère que les stocks ainsi gérés par la formation qui respecte les normes et standards internationaux sera donc un élément de plus pour la sécurité aujourd'hui où on a besoin de la maîtriser plus qu'hier. D'où la signification particulière de notre quête commune de prévention de l'extrémisme violent puisque lorsque les formateurs ont bien maîtrisé la formation qu'il a délivre aux gestionnaires de stock, nous arrivons à maîtriser la gestion et les extrémistes violents ont une source d'approvisionnement coupée. Parce que nous n'oublions pas, les armes qu'ils ont pour la plupart sont issues de nos stocks légaux. Parce que ces stocks légaux sont gérés avec approximation. La prolifération des armes, c'est une menace constante. Surtout les armes légères de petit calibre, eu égard à leurs caractéristiques. C'est une menace constante dans le monde, mais c'est une menace constante dans notre sous-région.
Les propos de Jokwei Dibré-Léon, premier responsable de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, recueillis par Mata Touré. Une page environnement à présent dans ce journal. Dans le cadre de la COP28 à Dubaï, la Côte d'Ivoire présente le projet Abidjan Legacy Programme, un projet qui vise à renforcer la productivité des agriculteurs les plus vulnérables face aux effets dévastateurs de l'environnement. C'était le dimanche 3 décembre au pavillon de la Côte d'Ivoire à Expo City à Dubaï, en présence du vice-président ivoirien Temoko Meïlé Koné. Suivons ce reportage de Ghislain Koulibaly.
Plus de 60% des terres productives ivoiriennes sont dégradées et cela occasionne des pertes énormes dans le domaine de l'agriculture. Pour y faire face, Abidjan Legacy Programme est en marche avec de nombreuses actions en milieu rural, nous dit Abou Bamba, coordonnateur du projet.
Nous avons lancé des études, la mise à disposition des semences améliorées à nos producteurs agricoles. Nous avons lancé aussi des études sur l'identification des nouvelles chaînes de valeur résilientes au climat. Et nous avons lancé aussi une phase d'identification et de mise en œuvre de projets pilotes dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, avec certaines communautés qui ont vraiment besoin d'aide, afin d'améliorer les conditions de vie de ces communautés-là que nous avons trouvées là, qui en général sont dans des défis de survie ou dans des défis de promotion sociale.
Pour atteindre tous ces défis, les communautés doivent être davantage imprégnées des enjeux de cette initiative en leur faveur. Et le Parlement peut avoir un grand rôle à jouer ici. Candia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire.
Ce que nous souhaitons en tant que parlementaires, c'est que justement qu'ils viennent au Sénat et à l'Assemblée, puisque nous sommes les représentants du peuple. Donc il est important que nous soyons briefés, que nous soyons informés du contenu de ce programme-là, afin que nous, à notre tour, nous puissions expliquer cela aux populations.
Abidjan Legacy Programme fait partie des solutions ivoiriennes dans la lutte contre le changement climatique, tout comme ce rapport national sur le climat et le développement présenté au cours de la même cérémonie. Ghislain Koulibaly, Dubaï, pour Radio de la Paix.
À présent, ouvrons une page santé dans ce journal. Le comité régional de lutte contre le VIH-Sida de San Pedro s'est réuni le mercredi 22 novembre pour présenter le bilan des activités du premier semestre 2023. Un bilan qui donne un taux de prévalence de 1,70%, bien inférieur à la moyenne nationale. Plus des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
La présentation des activités du comité régional de lutte contre le VIH-Sida a consisté à faire le bilan des activités réalisées au niveau des structures sanitaires et des activités au niveau communautaire. Pour Angama Dominique, directeur régional de la santé et de l'hygiène publique à San Pedro, les résultats ne sont pas satisfaisants.
Nos résultats ne sont pas fameux. Il s'agit pour nous de dépister le maximum de personnes, malheureusement. Nous sommes à 1,70% qui est en deçà de la norme nationale. Donc notre objectif, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles infections et que nous puissions prendre en charge tous les cas pour ne pas que les nouvelles infections soient détectées. Malheureusement, les gens refusent de faire le test. Et quand on fait le test, ils refusent de présenter les contacts. Parce que quand on fait un test, que malheureusement c'est positif, il faudrait qu'on puisse identifier toutes les personnes avec qui la personne a eu contact pour pouvoir les dépister afin de réduire, de limiter le champ.
Pour Trojan Hilaire, superviseur de l'ARCIP, l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et de la promotion de la personne humaine, un projet pilote à San Pedro sur le dépistage. Le dépistage est en train de donner une réponse aux préjugés sur le VIH-Sida.
On forme les leaders religieux dans différentes confessions religieuses pour dire que bien que Dieu puisse te guérir, il faut d'abord aller se faire consulter pour savoir de quoi t'en souffres. Au départ, il y avait des stigmatisations et il y avait des préjugés au niveau du VIH-Sida. Aujourd'hui, ça a commencé à porter fruit. Ils ont demandé même que nous venions dans leur camp de prière pour faire des sensibilisations et faire le dépistage.
Un tel projet fait à grande échelle pourrait donc booster favorablement la lutte contre le VIH-Sida. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Maintenant, intéressons-nous à la sécurité sur nos routes. À Boaké, tous les deux jours, la moto est responsable des pertes en vie humaine, soit 125 à 150 décès causés l'année dernière par les engins à deux roues. C'est l'information portée aux populations par le maire de Boaké, par ailleurs ministre des Transports. C'était le samedi 26 novembre, à l'occasion de la 7e édition du Festival ivoirien de la moto. Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Béké, nous en dit plus.
Pourquoi le choix de la ville de Boaké pour abriter la 7e édition du Festival ivoirien de la moto? Lazare Kablan-Lazio, président du comité d'organisation.
Cette ville est reconnue une ville vraiment motocycliste, c'est-à-dire assez de motos. À cause de la CAN que la Côte d'Ivoire organise, le leitmotiv de la ville de Boaké, c'est Boaké nouveau, attaché à la salubrité, donner un coup de pouce à l'organisation de la CAN.
Ce festival de la moto a été un prétexte pour le ministre des Transports, par ailleurs maire de Boaké, pour dénoncer l'incivisme de certains conducteurs de véhicules et de motos qui endeuillent des familles. Des chiffres avec le ministre Amadou Kone.
Plus de deux tiers des tués aujourd'hui sur nos routes, ce sont les motocyclistes et les piétons. Sur 1150 tués enregistrés l'année dernière par les différents services sur la route, près de 700 tués sur la route sont des motocyclistes et des piétons.
La ville de Boaké tient le haut du pavé avec un tableau sombre de l'insécurité routière, notamment au niveau des engins à deux et trois roues.
Dans une ville comme Boaké, c'est en moyenne un décès par moto tous les deux jours. On est globalement à 100, 125 et 150 tués par an dans une ville comme Boaké. C'est énorme.
Occasion saisie d'autre part par le directeur général du guichet unique de l'automobile pour exhorter à l'immatriculation des engins. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Place à l'actualité internationale. Londres et Kigali ont signé ce mardi 5 novembre au Rwanda un nouveau traité visant à ressusciter un accord controversé pour expulser dans ce pays des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Ce nouveau traité répondra aux préoccupations de la Cour suprême en garantissant notamment que le Rwanda n'expulsera pas vers un autre pays les personnes transférées dans le cadre du partenariat, a affirmé un peu plus tôt dans la journée un communiqué du ministère de l'Intérieur britannique. L'Union africaine a exprimé ce mardi son inquiétude après la dissolution la veille du Parlement dominé par l'opposition en Guinée-Bissau, tout en condamnant fermement les violences dans le pays. Jeudi soir et vendredi matin, des affrontements ont opposé la garde nationale et l'armée, faisant au moins deux morts dans la capitale Bissau, qualifiée de tentative de coup d'État par le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo, qui a décidé de dissoudre le Parlement. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Élection locale partielle du 2 décembre, tous les résultats sont maintenant connus. Relevant la bonne gouvernance des indépendants, le politologue Geoffroy-Julien Kouao estime qu'il faut en tirer les leçons pour les prochains scrutins. Dans le cadre de la COP 28 à Dubaï, la Côte d'Ivoire présente le projet Abidjan Legacy Programme, un projet qui vise à renforcer la productivité des agriculteurs les plus vulnérables face aux effets dévastateurs de l'environnement. Et hors de nos frontières, Londres et Kigali signent ce mardi 5 novembre au Rwanda un nouveau traité visant à ressusciter un accord controversé pour expulser dans ce pays des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez juste après ce journal votre magazine Mon droit au quotidien avec Aoussi Potin. Bonne soirée sur Radio de la Paix.
Au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Potin.